Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties en matière de polar et de films policiers. Nous évoquerons Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi, La mort remonte à hier soir de Duccio Tessari et La garde des gangs d'Umberto Lenzi, en compagnie des critiques de cinéma intervenant dans les bonus de ces polars italiens édités par Éléphant de Film, Gérald Duchossois et Romain Vandestichel. Pour rester dans le domaine du polar transalpin, nous aborderons le numéro 31 de Médusa, qui consacre un gros dossier à une icône du genre. Également au programme le singulier L'ami américain de Wim Wenders, sorti chez Carlotta Film. Enfin, nous causerons de deux sorties ESC, Fenêtre sur Pacifique de John Schlesinger et Un linceul n'a pas de poche de Jean-Pierre Mocky. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mautier, Jérémy Coiffman, Didier Lefebvre et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer polar et films policiers, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux fidèles acolytes, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également avec nous, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG, et bien évidemment, salut à toutes.
Nous débutons cette émission par du polar italien. Vous savez à quel point, les amis, j'aime le polar italien. Et il se trouve que nos amis d'Éléphant de Film continuent d'exhumer des trésors du polar italien. Et là, ils sortent Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi, La mort remonte à hier soir de Duccio Tessari et La garde des gangs d'Umberto Lenzi. Alors, on va aborder ces trois films en compagnie des critiques de cinéma Gérald Duchossois et Romain Vandestichel. Alors, on enregistre dans des conditions un peu particulières, et notre ami Romain est très très éloigné, on a l'impression qu'il est un peu dans une grotte, donc désolé pour ces petits soucis techniques dus aux aléas climatiques, puisque nous enregistrons aujourd'hui cette émission alors que dehors il y a une tempête, donc ce n'est pas simple. On fait ce qu'on peut pour vous proposer le meilleur. Donc tout de suite, Gérald Duchossois et Romain Vandestichel au micro de Culture Prohibée. Nous sommes en compagnie des critiques de cinéma Gérald Duchossois et Romain Vandestichel pour aborder donc les trois polars là de cette salve qui vient d'arriver chez Éléphant de Film, qui est la deuxième de 2023. Il y avait eu les Diléo l'année dernière, dont on avait longuement parlé aussi. Et dans ces trois films, il y a un film de Francesco Prosperi, un film de 66 qui s'appelle Technique d'un meurtre, dont les amis, le script rappelle furieusement un autre film que l'on aime beaucoup et que l'on a pas mal défendu, un film de Michael Winner.
Alors, est-ce que c'est le film de Prosperi qui rappelle celui de Winner ou est-ce que c'est celui de Winner qui rappelle celui de Prosperi?
Je ne sais pas si Winner l'avait vu ou pas, parce qu'on peut aussi dire que Winner avait vu le Samouraï de Melville, par exemple, qui est tourné l'année suivante du film de Prosperi. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que les deux films, avec cette histoire d'un tueur chevronné à qui on met dans les pattes un tueur plus jeune avec une mission à effectuer, et puis surtout ces longs moments de mise en scène, de préparation des meurtres et tout, fatalement, on ne peut s'empêcher de comparer quand même les films, parce que c'est un film en plus qui ne... Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais qui, je trouve, n'a pas les scories habituelles du polar italien, c'est-à-dire que c'est un film qui reste très sobre et qui est plutôt un film à l'américaine, si j'ose m'exprimer ainsi.
Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a hein, quand on regarde le film. Déjà, effectivement, le fait qu'on soit aux États-Unis, c'est quand même assez surprenant pour un film italien. Ça rappelle plus l'exploitation américaine, même dans la façon de filmer. Hein, c'est Prosperi, pour le coup, est quand même très très carré. Il y a un côté aussi un peu télévisuel, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des gens qui venaient de la technique, qui étaient là vraiment pour mettre en scène, pour habiller un scénario, pour raconter une histoire, vraiment dans le côté, dans le bon sens du terme, ouais, pour illustrer une narration et puis bien détaillée pour le coup. Alors c'est aussi ce côté qui peut rappeler parfois, oui, la télévision, je pense, c'est le fait qu'on détaille beaucoup l'action, mais ça, à mon avis, ça vient du samouraï de Melville. Hein. Je pense que là-dessus, c'est vrai que c'est troublant avec leur culpe pour nous tous quand on connaît Michael Winner, qu'on apprécie ou qu'on s'est plongé dans sa filmographie, comme on a pu le faire pour Prime Cut. C'est vrai que c'est vraiment très très étonnant hein, d'en arriver là et de voir cette corrélation entre les deux. Je pense que ça vient du scénario, c'est le sens du détail, c'est le fait de bien aimer. Mettre en scène ce qui quel est le quotidien en fait du tueur, quoi. Je pense que c'est vraiment ça l'idée.
Dès la séquence pré-générique, c'est le pouvoir aux armes, on voit les deux mains comme ça qui tiennent le fusil, qui réarment le fusil. C'est vraiment un générique d'un film entre guillemets à l'américaine, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la volonté du réalisateur. Il va nous montrer une histoire de mec et de gros flingue. D'ailleurs, faisons un peu d'humour, le mec s'appelle Clint et il a un gros flingue. Donc c'est quand même assez drôle. Mais il y a beaucoup de scènes, et en plus pour corroborer tout ça, il y a quand même beaucoup de scènes d'exposition sur le fusil, dans les plans d'ensemble, on le voit évoluer dans la ville, donc la ville a cette importance qu'elle a dans les films américains, et même je dirais dans les téléfilms, il y a un peu un côté télévisuel, surtout dans le début du film. Après, ça partirait plus sur une espèce d'Eurospy un peu abattardé, mais je trouve que le début, il y a un côté très télévisuel. Moi, je me souviens quand j'étais gamin que je voyais des séries comme Manix ou comme Les Rues de San Francisco, parfois aussi Columbo, sur certains extérieurs. Il n'y avait pas beaucoup d'extérieurs dans les Columbo, mais quand même. Cette manière de filmer la ville, ce n'est pas la même manière que dans, par exemple, La mort remonte à hier soir, avec cette séquence de générique dans le tramway. Parce que dans le film de Prosperi, je trouve que c'est à l'américaine parce que c'est né à l'extérieur. On voit le personnage évoluer dans la ville, etc. Mais on a un regard extérieur. Alors que dans le film de Tessari et La mort remonte à hier soir, on est la caméra. La caméra est à la place du spectateur. Et c'est pas la même vision des choses. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un film à l'américaine. Et je trouve très télévisuel. Ça me rappelle beaucoup ces séries des années 60.
Oui, il y a une question de point de vue qui est beaucoup plus discutable, effectivement, chez Prosperi, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est plutôt, comme je l'évoquais tout à l'heure, une question d'illustration et de narration. Je pense que c'est plus ça. Pour en revenir au flingueur de Michael Winner, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne vient pas du scénario? Parce que le scénario de Lewis Giancarlino et puis Monty Hellman, nous fait penser que eux auraient pu voir le film parce que ils viennent quand même d'une génération de cinéastes cinéphiles, en tout cas de scénaristes qui avaient vu beaucoup de films et qui étaient amateurs de série B. Ces films-là, ils étaient quand même distribués aux États-Unis dans les drive-in, dans des salles de quartier, donc ils étaient quand même accessibles. Donc moi, c'est la question que je pose. Michael Winner, c'était pas un cinéaste cinéphile, mais par contre, ceux qui ont écrit le scénario étaient quand même beaucoup plus enclins à se pencher sur l'histoire du cinéma ou des cinémas qui venaient d'autres pays du monde, et notamment l'Italie, qui a quand même beaucoup inspiré le polar américain des années 60-70, et les films étaient vus, hein. Donc là-dessus, moi, c'est la question que je pose. Il aurait fallu leur poser la question, mais c'est vraiment ce que je me dis, parce qu'il y a un découpage, donc ça veut dire que à la base, ils sont peut-être partis de ça dans le scénario, et peut-être que leur scénario était extrêmement précis, hein. Monty Hellman, c'était quand même un très bon, hein. Donc puis il a été prof de cinéma, Carlino aussi, il était bon, il a traité que des histoires de mafieux, de tueurs, donc c'était quand même une obsession chez lui, donc je pense que ça vient de là, a priori, plus que de Winner à proprement parler.
Sente, francese, io già c'ho un sacco di complicazioni. Vai a farti fottere!
Ha voluto la guerra, quel caffone. Peggio per lui.
Questa non è vita per te.
Fermo!
Écoutez Culture Prohibée. Moi, je vais passer à un autre film. Alors lui, il n'y a pas de confusion. On sait qu'on est chez du Lenzi, chez Umberto Lenzi, qui est un film de 73. D'ailleurs, sur lequel Yael Sada intervient dans les bonus, l'auteur du livre sur le vigilantisme au cinéma, livre passionnant s'il en est. Et ce film, c'est La Guerre des Gangs. C'est un film d'Umberto Lenzi. C'est un film un peu à part dans la longue série qui va être mise en scène par Lenzi. C'est son premier polar, et en gros, ça raconte l'histoire d'un macro milanais, mais alors pas un macro de petite envergure, un macro richissime qui est surnommé Toto, qui est joué par Antonio Sabato, et qui voit sa prostituée vedette être assassinée, Et tout cela sous les ordres d'un certain Roger Daverty, interprété par, surnommé le capitaine, hein, interprété par le toujours impressionnant Philippe Leroy. Philippe Leroy qui avait été découvert dans le trou de Jacques Becker. Et ça va être une guerre des gangs entre ces deux personnages. Dans un film, pour moi, avec une première partie assez violente et plus convaincante, et une deuxième un peu moins évidente, où on sent Alenzi... pas trop à l'aise en fait avec le côté presque parrain quoi, presque voilà, qu'il essaye de nous conter là dans la deuxième partie du film, où je trouve là il est plus efficace quand il donne dans la violence gratuite, et voilà, je pense que Lenzi, c'est ça qui l'intéressait quoi.
Moi je dirais pas que c'est moins réussi, je dirais qu'il y a une coupure trop nette en fait entre la première partie et la deuxième partie. C'est peut-être plus un problème d'écriture que de réalisation, je sais pas. La violence gratuite au départ, je trouve qu'en fait c'est nettement moins violent que la plupart des films de Lenzi. J'ai revu comment l'avion de l'Apocalypse, là c'est brutal. C'est vraiment violent gratuitement. Quoi. Là je trouve que la violence elle est quand même assez mesurée par rapport aux autres films de Lenzi au départ. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gérald.
Oui, c'est ce qu'il y a dans ce film-là, ce qui est pas mal aussi, surtout dans la première partie, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le fait qu'il y a une violence sociale quand même qui est assez terrible avec les ouvriers, les prostituées, avant de passer en fait à cette exploitation des thèmes qui sont dans le parrain, pour le coup on en revient à ce qu'on disait juste avant. C'est ça qui est vraiment intéressant, plus que cette violence qui est un peu plus maîtrisée là pour le coup, hein, c'est qu'habituellement chez Lenzi, mais il y a une violence sociale là qui est assez intéressante, hein, qu'on voit pas forcément souvent, où on les voit au travail, on voit les prostituées, on voit les camions, les chantiers, enfin c'est une Italie qui est toujours en changement, mais là on n'a pas l'impression que c'est le changement du pour le meilleur, là on a l'impression que au contraire là il y a une exploitation du coup de l'être humain et puis des femmes à proprement parler là, donc c'est assez terrible en fait ce qui est véhiculé dans le film, dans cette première partie, qui est beaucoup plus intéressante hein, que ce qu'on voit après.
Alors c'est vrai que la première partie, même les premiers plans du film, on a clairement l'impression d'être dans le monde de la prostitution, mais une prostitution réelle. On n'a pas l'impression que ce sont des actrices, quoi. On a l'impression que ce sont des plans volés. C'est sur des plans qu'on voit souvent d'ailleurs dans le cinéma italien. Et moi, ce qui me frappe chez Lenzi, en fait, alors je parle de violence gratuite, parce que je pense que Lenzi, il aimait bien en mettre plein la vue aux spectateurs. Il y a souvent de la violence gratuite. Il y a aussi un très grand sens du rythme chez Lenzi, parce que ses films sont très très rythmés. Et celui-là n'y échappe pas. C'est un film très rythmé. On s'emmerde pas une seule seconde, mais ce qui me frappe toujours chez Lenzi, c'est cette faculté qu'il a à dépeindre des petites gens, ce qu'on va appeler des petites gens, et là je prends pour exemple après ce qu'il fera dans des films ultra brutaux via les différents personnages qu'interprétera Thomas Milian, qui sont souvent des voyous, mais des voyous aussi très attachants, puis il y a le personnage Milian invente aussi le personnage de Monenza aussi, mais il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un aspect qu'on oublie souvent chez Lenzi, c'est cette faculté qu'il a à rendre crédibles et attachants des personnages qui, en fin de compte, sont assez, sont les rebuts de la société, sont des gens qu'on ne fréquenterait peut-être pas dans la vie de tous les jours.
Il a une capacité à capter les choses par très 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 rapide et à nous planter Milan vraiment en quelques plans et après à enchaîner. Extrêmement vite l'histoire, et la violence est un peu pareille, elle est assez rapide aussi, donc il est toujours très fort pour ça. Pour ce film-là respecte bien les canons de Lenzi, et puis sa capacité à être, malgré un scénario touffu, à être extrêmement dans la force de captation. Ça, je trouve que c'est vraiment la grande force du film, plus que la violence à proprement parler. Ouais.
Comme tu dis, Jérôme, quand tu parles de Thomas Milian, c'est vraiment le catalyseur de ce style Lenzi, en fait, concernant la violence. Et tu retrouves ça vraiment, je trouve que le plus fort de ça, le ouais, le plus puissant de ces films de ce point de vue-là, c'est quand même la bande d'El Gogo, c'est l'échec ou gang. Là, il y a quand même une composition de Milian, et tu sens que Milian, malgré ses tendances à partir dans tous les sens, il y a quand même une direction d'acteur. Il y a quelque chose que tu retrouves dans certains films de Lenzi, mais je pense que c'est peut-être aussi une question de budget, hein. Parfois, le fait d'être obligé de terminer le film très vite et de ne pas pouvoir... Parce qu'il y a quand même des obsessions dans les films d'Umberto Lenzi. Il y a des choses qui reviennent régulièrement. Tu parlais de la manière de filmer les prostituées, enfin non, pardon, pas les prostituées, les femmes comme les prostituées au départ. Et ça inscrit le regard de ce mec, qui est quand même un regard pervers. Le mec, c'est un Mac et tout, il n'y a pas à discuter, quoi. Ça inscrit un regard vraiment pervers du mâle dominant sur ces deux femmes qui traversent la rue et qui, de fait, sont vues par la caméra à travers ses yeux, donc sont considérées comme le potentiel employé, entre guillemets, donc des prostituées. Et le Scorpio Club, là, dans lequel il entre au début, qui est sa propriété, ça renvoie à tous ces... Moi, ça m'a fait penser à... Alors, c'est idiot, hein, mais La Tendresse Bordel, le film avec Jean-Luc Bidault, où il parle, il ouvre un Eurocenter à un moment, et du coup, j'ai un peu regardé à droite à gauche, mais en fait, c'était des trucs qui étaient tout à fait acceptable dans les années 70, quoi. Genre les Eurocenters, c'était libération des mœurs, etc. Mais en fait, c'était de la prostitution déguisée, quoi, au vu et au-dessus de tout le monde. Et je trouve que tu parles de violence sociale, ces premiers plans, ça s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Ouais. C'est vraiment très prégnant.
Ogni volta che vado al commissariato di quartiere, il commissario mi dice di stare tranquillo, che c'è tanto lavoro, che la ritrovano, la mia bambina.
Donatella! Donatella!
Quanti anni ha la sua bambina?
25.
Una di 25 anni non è una bambina.
Mia figlia è una bambina. Se ha 25 anni, ha l'intelligenza di una bambina di 3.
Il dottore dice che è una malattia.
Écoutez les critiques de cinéma Gérald Duchossois et Romain Van Destichel au sujet des polars italiens parus chez Éléphant de Film au micro de Culture Prohibée. Après donc deux polars réussis, vous l'aurez compris, hein, dont nous venons de parler, à savoir Le Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi et La Guerre des gangs d'Umberto Lenzi. On va vous parler d'un film qui, pour moi, est difficile un peu à rentrer dans une case. Il a parfois été... Pour les Italiens, c'est un giallo, puisqu'il est écrit par Giorgio Serbanenko, qui est un maître du giallo, et le giallo en littérature, on rappelle, ça n'a rien à voir avec le giallo au cinéma. Un Simenon est un giallo pour les Italiens, c'est-à-dire que dès qu'il y a meurtre, souvent Woodunit, intrigue typique du Woodunit, on se retrouve dans un giallo. Et là, on est dans l'adaptation d'un bouquin de Serbanenko. Le film s'appelle La mort remonte à hier soir, c'est un film de 70 de Duccio Tessari. On a gardé ce film pour la fin, là, tous les trois, pour en discuter, parce qu'on avait envie aussi de rendre grâce un peu à Tessari, qui est un cinéaste un peu oublié dans tous les cinéastes italiens de l'époque, qui pourtant a une carrière solide, est un cinéaste assez important, on va y revenir. Là, l'histoire est assez simple, hein, on a un veuf qui élève seul, un veuf magnifiquement campé par Ralph Vallone, qui élève seul sa fille, campée par Gilles Bray, alors qui est une grande perche de plus d'1m80, hyper pulpeuse, très belle, mais qui en fait a un retard mental et elle a l'âge d'une gamine, quoi, de 4-5 ans, quoi. Voilà, l'âge mental d'une gamine de 4-5 ans. Et il se trouve qu'elle va Elle va se faire kidnapper, alors, évidemment par des personnes peu recommandables. Et à ce moment-là, va arriver l'enquêteur Duca Lamberti, interprété par Frank Wolf, et qui va, lui, enquêter avec l'aide, alors à la fois d'un jeune Mac, avec l'aide d'une prostituée, tué noir qui est suicidaire de plus, avec aussi, bon, on le voit dans son couple avec sa femme qui est journaliste, tout ça, donc qui est un peu un inspecteur atypique, puis aussi avec un jeune inspecteur qui va former pour que, lui apprendre son travail, voilà. Et ça va donner un film très, très singulier, qui est une sorte de polar presque à la Simenon, enfin on retrouve aussi clairement l'ambiance du bouquin de Scherbanenko. Pourtant, il y a un changement notable, parce que Lamberti, c'est un médecin rayé de l'ordre des médecins dans les bouquins de Scherbanenko. Donc, c'est pas exact. Le personnage a été modifié. Et ça va donner, en fait, un film qui est à la fois une sorte de film noir, un film très social, un drame poignant et un film implacable, en fait.
Ça commence dès la scène d'ouverture à bord du tramway. Il y a une maîtrise technique incroyable sur la chanson de Mina, là. Et ça annonce vraiment la linéarité du film. C'est quelque chose d'incroyable. C'est la musique de Gianni Ferrio. Et donc Mina, qui était une chanteuse très très connue, qui avait vendu je ne sais pas combien, 130 ou 150 millions de disques en tout, quoi. Et dès le début, on est dans le mouvement et on ne va jamais s'arrêter.
Oui, puis on a la chance d'avoir à nouveau un film de Tessari, hein, quelques mois après la sortie de Big Guns, qui a été restauré et donc dont on trouve la version italienne, là, qui a été sortie par Pathé, qui est bien plus violente que la version qu'on avait l'habitude de voir en France, hein, qui était le montage d'Alain Delon, puisque c'était lui le producteur du film. Donc là, on a la chance de découvrir la version intégrale du film, qui est bien plus violente et plus déprimante aussi que celle de Delon. Et là aussi, on est quand même dans un film qui est assez déprimant. Vous disiez implacable. Effectivement, dès le début, on va être porté par le tramway dans la ville. Donc on a un voyage qui se fait à l'intérieur de la ville et puis un voyage terrible. C'est une enquête qui est vraiment déroutante et puis qui aussi ménage beaucoup de moments d'humour, des moments plus sociaux, des moments de violence, des moments de poursuite, toujours aussi dans la découverte du peuple qui travaille dans la ville. On voit une conversation avec ceux qui ramassent les poubelles, on voit le père qui va en claudiquant aller chercher des informations pour retrouver la trace de sa fille. Donc on a beaucoup de contacts comme ça tout au long du film, où toute la société se mélange et il y a un dialogue vraiment passionnant à la fois entre les personnages et puis nous aussi en tant que spectateurs vis-à-vis du film pour savoir où on se situe et retrouver la société italienne de l'époque. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de barrières, donc ça c'est vraiment passionnant dans le film. Et puis il y a l'enquête, hein, qui est vraiment terrible.
Je trouve qu'il y a aussi le respect de la touche Scherbanenko, l'auteur donc du roman original sur lequel est basé le scénario, à travers l'exposition de la ville. La ville de Milan, dès le début du film, la séquence dans le tramway, pose la ville vraiment comme un personnage à part entière du film. Et la manière de filmer la ville dans le film, alors ça peut paraître un tropisme, hein, ce que je veux dire, mais la manière de filmer les personnages dans le film, tu parlais de la rencontre du père dont jouait par Ralph Vallon avec les éboueurs, dans une scène cruciale du film, est très importante aussi parce qu'ils sont filmés de dessus et c'est ce qu'on disait dans les bonus, c'est que le fait de les filmer comme ça en plongée pourrait laisser penser que ça les écrase, etc. C'est toi, Gérard, qui disait ça dans les bonus. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'on est en hauteur. En fait, c'est la ville qui porte ses enfants, en fait. Tous ces gens sont les enfants d'une ville, donc d'un système, d'une manière de fonctionner. Il y a une critique sociale qui est vraiment sous-jacente. à travers cette manière de filmer, à travers cette manière d'inscrire les personnages dans la ville. Et on l'a aussi au début dans un dialogue, ça corrobore un petit peu ce que je dis, je pense. C'est Ravalone qui dit à la police, qui dit à, alors je ne sais plus s'il le dit à Mascarati, au subordonné ou au commissaire, je ne sais plus. Il lui dit, ouais, vous savez comment c'est en Italie, si vous allez voir les subordonnés, il ne se passe jamais rien, donc il faut aller voir les chefs pour espérer avoir une réaction.
Oui.
Et en fait, voilà, c'est inscrit ces personnages dans une vie qui les nourrit et qui les écrase en même temps. Et c'est des personnages qui souffrent, qui sont complètement dépassés, qui sont complètement désabusés. Et ça va, tu parlais, Jérôme, de la prostituée suicidaire. Ça va de ce personnage-là au père, à une des responsables de l'enlèvement, dont tu comprends qu'elle aussi, c'est une victime d'un ordre social qui est préétabli et qui ne bougera jamais. Enfin, c'est très, très intéressant comme film. Tessari, c'est quelqu'un qui est vraiment sous-estimé, beaucoup trop sous-estimé.
Il y a aussi ça avec la séquence où ils vont au match de football, où on voit tous les hommes qui sortent du match, et tous les supporters, et on a vraiment l'impression que c'est l'attraction du dimanche, tous ces gens qui doivent travailler dans on a vraiment l'impression que c'est ça, hein, qu'ils sortent de l'usine, et là ils sortent du match de foot, et c'est vraiment avec la civilisation automobile qui prend beaucoup de place. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce que quand on aime le cinéma, on pense beaucoup au cinéma des années 40, au film noir, où à Los Angeles on voyait encore le tramway. Donc du coup, au début, on commence avec le tramway, puis là on voit la civilisation de l'automobile qui prend le pas, et on sait bien que ça a aidé aussi l'Italie à redresser la barre après la Seconde Guerre mondiale, hein, toute la production automobile, et puis le fait que tout le monde ait une voiture, donc ça a tiré la société vers le haut, parce qu'il y a eu cette grande production de Fiat, cet enrichissement personnel, individuel, la création des classes moyennes. Et donc tout ça, en fait, remonte grâce à une interrogation sur le parking. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui s'additionnent et qui font corps dans un film qui est extrêmement bien écrit. On sent que le matériau de base est de grande qualité, hein, quand il y a les scènes qui est tous ces entrelacs de scènes avec le flic qui joue de la guitare. Donc du coup, ça crée un personnage qui est quand même très très atypique, qui discute avec sa femme sur un pied d'égalité aussi. Il n'y a pas ce traitement qu'on voit souvent dans les films où les femmes sont juste là, sont bonnes à servir, en fait, hein. Donc du coup, c'est vraiment très très déroutant, et puis aussi assez naturel et pour le coup moderne. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant aussi dans le film, et puis qui passe beaucoup par le verbe, malgré le fait que la réalisation soit très dynamique et le montage aussi extrêmement bien agencé. Donc on a vraiment à faire un film qui est de très très bonne facture et qui va au-delà, en fait, de ce qu'on pourrait attendre d'un giallo, parce que c'est pas y a pas uniquement l'enquête qui compte. Il y a aussi toute une force d'écriture qui est capitale et qui est très très bien représentée à l'écran. Le père aussi est quand même très très déroutant. On se demande de quoi il vit. Au début, il travaille, il a un petit boulot, puis après il se lance uniquement à la poursuite de sa fille. Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent et qui à chaque fois nous ramènent à un contexte social, ce qu'on aime beaucoup, hein, dans les polars en général.
Romain, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que moi j'adore Serbanenko. Je voulais souligner auprès des auditrices et auditeurs que ces livres ressortent chez Totem là, avec des nouvelles traductions visiblement, donc il faut se précipiter. Et effectivement, Romain, tu l'as bien dit, et Gérald aussi, c'est-à-dire que le film est très fidèle, en fait, à l'univers de Giorgio Serbanenko, qui est décrit comme un véritable sociologue, en fait, de la société italienne, hein. Il est considéré aujourd'hui comme un immense écrivain. Bon, il est mort assez jeune, il a même pas eu le temps de voir les films adaptés de ses livres, hein, d'ailleurs, c'est une véritable légende, Serbanenko, et là, je trouve qu'effectivement, ça a été bien dit, le réalisateur capte très bien l'univers de Serbanenko, le côté très sociologique de ses livres, et Tessari, vous l'avez rappelé tous les deux, parce que quand on voit quand même La mort remonte à hier soir, avec le goût amer qui nous reste en bouche à la fin du film, qui est quand même assez prononcé, c'est quand même un film qui vous poursuit après l'avoir visionné, comment vous expliquez-vous que ce réalisateur, Duccio Tessari, quand même, qui a quand même fait Les Titans, Un pistolet pour Ringo, Le retour de Ringo, qui a fait Big Guns, c'est Gérald qui en parlait, qui a fait sorti chez nos amis du Chat qui fume, Un papillon aux ailes ensanglantées, que je tiens moi pour un excellent giallo, là aussi implacable d'ailleurs. Comment expliquez-vous que ce réalisateur, en fin de compte, reste assez peu connu et assez peu vanté par même les turiféraires du cinéma italien, quoi?
C'est une bonne question.
Eh ben, en fait, il se mettait pas trop en avant, hein. Déjà, il y a quand même beaucoup ça dans sa carrière. Et puis, il passait beaucoup pour dilettante aussi. Donc, il n'avait pas une très, très bonne image. Et après, il n'a pas... je pense qu'au sein même de l'industrie, il avait une place à part, hein. Il n'y a qu'à voir toute la relation qu'il avait eue avec Delon. C'était quand même très très intéressant de cette amitié qu'ils avaient nouée. Et il était un peu en dehors du système, donc tout en étant très très productif. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant chez lui. Mais effectivement, on pourrait se plonger dans sa carrière. Là, quand on voit la qualité des films que tu viens d'évoquer, Jérôme, on se dit qu'il y a toute une recherche à faire sur son travail, hein, qui est beaucoup plus intéressant que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial polar. Après ce petit voyage en Italie en compagnie de Gérald Duchossois et Romain Van Destichel au sujet des films donc disponibles chez Elephant Film, Technique d'un meurtre de Francesco Prosperi, La mort remonte à hier soir de Duccio Tessari et La guerre des gangs d'Umberto Lenzi, je vous propose, pour prolonger l'expérience, de vous plonger dans la lecture du tout dernier numéro paru de Médusa Fanzine, le numéro 31. Et oui, quelle longévité pour Didier Lefebvre, désormais le dernier dinosaure du fanzina cinéphilique. En tout cas, même si l'ami David Didlot continue, lui, Didier Lefebvre, c'est celui qui a gardé encore le titre de son zine originel, Médusa. Donc c'est ce qui en fait désormais le plus ancien zine sur le cinéma bis en activité. Dans ce numéro 31, qui marque la fin des pavés de plus de 200 pages, hein, via une pagination moins abondante, ici 74 pages, moins abondante mais tout autant passionnante. Alors en sus des reportages chroniques brèves et rubriques habituelles, telles celles sur les films Polisson, la Méduse met en avant un entretien fleuve avec un acteur français que l'on adore, Luc Meran. Vedette de nombreux polars italiens, il se confie sur 14 pages à l'ami Didier Lefebvre. Donc pour tout savoir sur les polars de Sergio Martino, Fernando Di Leo, la relation compliquée de Luc Miranda avec Thomas Milian, mais aussi pour avoir son avis très tranché sur Donald Trump, eh bien il faut vous procurer le Médusa numéro 31 de l'ami Didier Lefebvre, qui est disponible sur la boutique des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nous allons faire les choses chronologiquement, les amis, et je vous propose tout d'abord de parler d'un film du coup sorti en 1974, un polar atypique, un polar signé Jean-Pierre Mocky, qui s'appelle Un linceul n'a pas de poche, adapté de Horace McCoy, et qui nous raconte les aventures d'un journaliste, Michel Dolan, qui quitte un journal vendu au capital, vendu aux politiciens locaux, aux potentats locaux, aux patrons de clubs de foot ripoux, pour fonder son propre journal, un journal indépendant qu'il va appeler le Cosmopolite. Mais en le faisant ça, il va bousculer l'ordre établi et il va avoir énormément d'ennuis dans ce Mocky, qui est certainement l'un de ses plus ambitieux. Déjà, le film fait 2h05, ce qui est assez rare chez Mocky. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais tout de suite passer la parole à notre ami Damien Demey. Bon, moi, c'est un de mes Mocky fétiches, mais je vais lui laisser s'exprimer sur ce film.
J'ai vu beaucoup moins de Mocky que toi, Jérôme, si je ne me trompe pas. C'est mon deuxième et ça me change un peu du précédent. Alors, j'ai l'impression que ça fait un peu partie de son cheval de bataille habituel d'avoir des castings assez dantesques. Bah là, il y a Mocky lui-même qui joue dans son propre film. Il est accompagné de Myriam Mézière, il y a Jean-Pierre Mariel, Michel Gardru, et je vais pas tous les faire. Et c'est un film qui me change beaucoup du précédent, parce que le précédent était très comique, avec un discours, certes, en dessous, enfin sous-entendu, enfin présent mais pas mis en avant, contrairement ici, parce qu'on a affaire à un film extrêmement politique et vraiment engagé pour une presse, engagé pour la presse et sa liberté. Et c'est quelque chose qui est donné dès le début du film, vu que le film s'ouvre sur un accident avec un ouvrier qui est percuté par le fils d'un homme important. C'est une scène muette, on voit juste tout ce qui se passe avec un fils qu'on apprend plus tard, l'affaire sera cachée et le fils relâché. Et le film introduit directement par une injustice, par un système finalement à deux vitesses. Et c'est un film très intéressant qui montre un peu ce que donne une presse compromis au service des plus puissants ou simplement à ceux qui ont de l'argent, ce qui est dit directement. Notamment dans son fonctionnement, on peut voir à travers l'utilisation des mots, vu qu'il y a un moment où un personnage saute la vie. Et dans la presse, il préfère utiliser « mort avec un revolver » plutôt que de parler de suicide, vu que c'était quelqu'un qui était catholique et très engagé. C'est un film qui est long. J'ai pas vraiment vu le temps passer en le regardant, mais il a pas un rythme non plus entraînant, mais il prend le temps de se poser, de développer ses différents personnages, différents intervenants, à quel point ils sont importants. Bon, après, c'est un Mocky, du coup, on retrouve beaucoup de fesses dedans, énormément, avec un détail qui est assez drôle, c'est que le héros Dolan a cette particularité de pas forcément partir en quête des femmes, mais elle lui tombe toute dans les mains. D'ailleurs, tous les personnages féminins finissent quasiment dénudés en sa présence. J'aime bien aussi... Mocky ne porte pas le film tout seul avec son personnage du journaliste de Dolan. Il est aussi accompagné par Myriam Mézière qui joue Mira Boronowski, qui est un personnage que je trouve dommage de ne pas avoir été plus développé, vu que ça aurait donné un côté un peu plus tatin à toute l'histoire de ce journaliste qui part en quête de dévoiler la vérité et de mettre en avant tout ce qui est caché, corruption ou trahison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que certes c'est un film de 74, mais au final c'est un film assez moderne dans ses sujets, notamment le fait de parler de la liberté de la presse, de son accès à la presse et de l'importance de l'information pour éviter qu'elle ait une mainmise de personnes riches ou d'une politique qui se comporterait quasiment comme une mafia.
Un linceul n'a pas de poche, donc là qui vient de sortir chez ESC de Jean-Pierre Mocky, est pour moi un des meilleurs Jean-Pierre Mocky, qui est un pamphlet pour la liberté de la presse, qui est avec des dialogues très bien écrits, des acteurs sensationnels. Michel Constantin en syndicaliste est extraordinaire. Jean Carmé en flic incorruptible. Enfin, il y a des personnages extraordinaires. Alors, puis la galerie d'acteurs, tu l'as dit, Daniel Gélin, Galabru, Jean-Pierre Mariel. C'est assez extraordinaire. Paul Muller, Sylvia Christel dans un de ses premiers rôles, avant, elle a tourné le film avant de tourner Emmanuel, en fait. et Francis Blanche dans son dernier rôle, parce que lui, il ne verra jamais le film. Et pour la post-synchronisation, c'est Michael Lonsdale qui va le remplacer, d'ailleurs, qui fait, lui, un type qui finit par donner les moyens à Dolan d'imprimer son journal, parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler avec Dolan, quoi, plus, tellement il balance la vérité tout le temps. Voilà. Et puis, c'est aussi un film filmé, alors qui aborde aussi le sujet de l'avortement, hein, c'est important, et qu'on est en 74, et qui, quand même, met en avant aussi un filmage façon film noir à l'américaine, avec des jeux sur les ombres portées. Pour moi, c'est du très 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 bon. Alors, pour parler de justement de lien entre l'Amérique, le polar et l'Europe, on voulait aussi aborder un film qui s'appelle L'ami américain de Wim Wenders, qui a longtemps été un film incompris de Wenders, qui est un film de 77, qui est qui sort là chez Carlotta Film. Et l'histoire, à la base, assez simple, hein, Jonathan Zimmerman, c'est un encadreur, un restaurateur de tableaux, qui est atteint d'une leucémie. Il vit à Hambourg avec sa femme et son jeune fils. Et lors d'une vente aux enchères, il fait la connaissance de Tom Ripley, oui, parce que c'est une adaptation de Patricia Highsmith, hein. Il fait la connaissance de Tom Ripley, un Américain trafiquant des contrefaçons. Par son intermédiaire, il rencontre Raoul Minot, un Français qui lui propose de commettre un meurtre en échange d'une forte somme d'argent. Se sachant condamné, Jonathan accepte le marché se retrouve pris, mon cher Thomas, dans un polar très singulier quand même, hein, très très singulier. On est loin du Hammett produit par Coppola, qui avait échappé d'ailleurs à Wenders selon lui-même, hein, qui est plus un film de Coppola que de Wenders. On est dans autre chose là, Thomas.
Même si c'est pas un genre qu'il a souvent abordé, le polar, le film de cinéma de genre, etc., ça rentre quand même dans son canevas, hein. On retrouve son style, un rythme assez lent, assez contemplatif, et finalement un polar qui est quand même assez glauque, quand on y pense bien, avec ce personnage de Tom Ripley, hein, Tom Ripley qui a été incarné par Alain Delon dans Plein Soleil de René Clément, qui est un personnage récurrent chez Patricia Highsmith. Moi, j'ai jamais lu Patricia Highsmith. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà lu, Gégé, mais je sais que c'est un personnage récurrent, qui est un personnage assez trouble, assez étrange, qui on ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, mais il est toujours dans des affaires louches. Et donc là, ce personnage, il est des plus ambigu, encore plus ambigu, parce qu'on ne sait pas quel est les aboutissements de ces assassinats. Que doit faire ce personnage incarné par Bruno Gantz. Apparemment, ce serait plutôt, il s'immiscerait plutôt dans une sorte de guerre des gangs, il élimine des chefs mafieux pour justement les lier deux gangs l'un contre l'autre. Enfin, c'est pas très clair, mais c'est ce qui fait l'intérêt du film, en fait. C'est ce mystère qui le fait un peu glisser un peu dans le fantastique quelque part. Parce qu'il y a des choses assez, assez, assez étranges, comme à la fin, il y a une ambulance. Hein, on sait pourquoi elle est là, mais c'est assez étrange. Ça se termine sur une plage avec cette ambulance. Il y a une sorte de scène d'assaut dans une villa à Munich, une villa avec des colonnes. C'est un film assez particulier, assez lent. Mais finalement, on se laisse bien prendre. Il arrive à capter ce côté film noir où règne justement cette ambiguïté, ce mystère autour des personnages qu'incarne particulièrement bien Dennis Hopper, hein, qui joue donc Tom Ripley. C'est un film, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à redécouvrir. C'est un film assez... Bon, c'est pas un film évident à appréhender, ceci dit, hein. Mais ça rentre, moi je trouve que c'est un film qui rentre bien dans la filmographie de Wim Wenders, qui s'attache vraiment à des personnages qui sont des marginaux quelque part, hein, comme ceux de sa trilogie de la route ou même les ailes du désir. Il s'attache toujours à des personnages qui ont des difficultés, qui rentrent pas dans le moule, etc.
Thank you. vous écoutez Culture Prohibée. Commande vivement. En plus, il y a une distribution assez incroyable, hein, parce qu'on va retrouver dans des rôles différents. Nicolas Rey, Samuel Fuller, il y a même Jean Eustache. Enfin, il paye aussi un tribut à tous les cinéastes qu'il aime, pas que américains d'ailleurs, mais à tous les cinéastes qu'il aime, à tous les un peu les comment dire, ce qu'on pourrait appeler des mavericks du cinéma, quoi, à tous les cinéastes parfois mésestimés. Donc ça s'appelle L'ami américain, c'est de Wim Wenders et c'est disponible chez Carlotta Film. Et on va finir cette émission avec un film d'un réalisateur anglais. Alors ça, c'est disponible chez ESC, c'est Fenêtre sur Pacifique. C'est un film de John Schlesinger. Alors John Schlesinger, c'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur britannique qui était considéré avec d'autres comme Tony Richardson et Karel Rice comme un des réalisateurs de la nouvelle vague, en fait, hein, qui a sévi dans les années 60 en Grande-Bretagne. Et il va démarrer très très fort sa carrière de metteur en scène, puisque il va d'abord faire Un amour pas comme les autres, qui va en 62, qui est son premier film, un de ses premiers films, qui reçoit l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Billy de Menteur en 63, qui vraiment s'attache à décrire la vie de la working class anglaise. Et il y a après Darling Cherry, son troisième film, qui remporte 3 Oscars quand même. Enfin, c'est une carrière qui démarre sous de bons auspices, hein, lui qui va être justement un des premiers à représenter aussi le Swinging London. Et avec entre autres aussi, il va en 67, un très grand film, c'est Loin de la foule déchaînée, hein, d'après Thomas Hardy. Et puis en 69, il connaît le grand succès international. Et il tourne Midnight Cowboy avec Dustin Hoffman et John Voight, qui lui vaut l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Hein. Et ce metteur en scène fera ensuite plein de films qu'on a de cesse de réévaluer. Je pense par exemple au Jour du Fléau, qui est un film absolument extraordinaire. Marathon Man, qui est là aussi un film très très marquant, un thriller très marquant, dans lequel d'ailleurs on retrouve des obsessions. Il arrive, même s'il va travailler pour des gros studios, à mettre en place ses obsessions. D'ailleurs, dans Macadam Cowboy, bon voilà, il illustre aussi l'homosexualité. Il lui-même était un homosexuel convaincu, même si son militantisme était parfois étrange, parce qu'il était, par exemple, il avait filmé en soutien à John Major, il avait filmé des spot pour la campagne du Parti conservateur en 92. Donc c'est assez étonnant. Ben voilà, ce 92, c'est l'année d'après, en fait, Fenêtre sur Pacifique. Et Fenêtre sur Pacifique, c'est... qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un film plus mineur, hein, de John Schlesinger, qui était quelqu'un de complexe, donc, et qui est là, au crépuscule de sa carrière, il n'a plus rien à prouver, hein, je vous ai dit tout ce qu'il a fait auparavant. Donc il va s'amuser. Il va s'amuser autour de ce thriller hitchcockien en diable, hein, dont l'histoire est assez simple, en fait. Hein, c'est l'histoire de Patty et Drake qui viennent d'acheter la maison de leur rêve à San Francisco. Et parce que financièrement, c'est pas tip-top, ils décident de louer une chambre au rez-de-chaussée. Et c'est un certain Carter Hayes qui va arriver, qui semble être un locataire parfait et qui, en fait, ne va pas du tout être un locataire parfait. Et donc, à partir de ce thème assez classique, hein, soutenu par une distribution assez extraordinaire, Michael Keaton, Matthew Modine, Mélanie Griffiths et sa mère, Tippi Hedren, eh bien, en fait, Schlesinger va s'amuser à composer un thriller hitchcockien en diable. C'est clairement son tribut à Alfred Hitchcock. Le choix de casting de Mélanie Griffiths et Tippi Hedren n'est absolument pas dû au hasard. Il va nous faire un film hitchcockien autour d'un locataire malaisant. Bon, si on replonge en arrière, hein, dès les débuts de la carrière d'Hitchcock, on peut déjà se rappeler de The Lodger, hein, voilà, qui était déjà sur ce thème. Le film Le film est donc sans génie, mais particulièrement bien exécuté. Hein. Schlesinger, c'est un virtuose. Il s'amuse bien avec son casting 4 étoiles, dont les deux blondes Hitchcockiennes que je viens de vous citer, Fenêtre sur Pacifique. Donc c'est un divertissement de bonne facture. Et on ne lui en demande pas plus. Et puis bon, bah, chaque film avec Michael Keaton est à voir. Hein, voilà. Donc ça s'appelle Fenêtre sur Pacifique et c'est disponible chez ESC. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.